Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 26 janvier 2025. Oui, je suis revenu de Belgique entier, plutôt en bonne forme. Ça secoue un petit peu, ça a pas mal secoué dans les airs ce week-end en avion. Vous avez vu la météo. Donc bref, pas comme les marchés, parce que les marchés, ça va plutôt bien, puisque finalement, on a vécu encore une bonne semaine avec l'arrivée de Trump, puisque oui, bien sûr, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Le sujet principal était Donald Trump et encore Donald Trump, puisque, bah oui, moi j'étais deux fois de suite sur les plateaux télé en France et en Belgique cette semaine, et le sujet c'était Donald Trump, que va-t-il faire? Que va-t-il se passer? Alors évidemment, ce Swiss Bliss, si officiellement Donald Trump n'est pas le président de la Suisse, eh bien, être principalement axé autour de Trump. On va juste faire un peu un point de situation, parce qu'effectivement, de toute manière, rien n'est encore acté, rien n'est encore fait. Beaucoup de choses ont été dites et faites, beaucoup de décrets ont été mis en place. Bref, on fait le point tout de suite dans ce Swiss Bliss. La semaine aura donc été articulée autour du président américain, et on peut carrément dire que, mis à part quelques petits points de détail, comme par exemple les publications trimestrielles de Netflix, bah, la semaine était en plus raccourcie aux USA pour cause de Martin Luther King Day. On aura donc été principalement regroupé autour des annonces et autres petites phrases assassines de Donald Trump. Une chose certaine, c'est que ces prochains mois et ces prochaines semaines vont beaucoup, beaucoup tourner autour de lui, puisqu'il est et qu'il sera donc dorénavant incontournable pour les 4 prochaines années. La volatilité politique est donc de retour, et il va falloir composer avec, au-delà de l'avalanche des décrets qui nous sont tombés dessus depuis lundi. On ne va pas refaire toute la liste, mais il faudra quand même mesurer tout cela au fur et à mesure, puisque certaines de ces décisions sont anticonstitutionnelles, et donc il va y avoir du boulot pour les magistrats qui vont devoir et pouvoir tenter de bloquer la chose de façon légale. En attendant, comme prévu, ces annonces sont pro-business, anti-taxes, pro-crypto, même si ça se ressent pas encore sur les cours, et puis anti-immigration, bien sûr, sans compter que, sans surprise, il a mis déjà la pression sur Jérôme Powell sur le sujet des taux d'intérêt, puisque le nouveau président veut donc des taux plus bas, et il l'a clairement fait comprendre ces derniers jours dans la presse. Donc Powell va se retrouver à devoir jongler entre baisse des taux sous la pression du président et inflation qui ne veut plus baisser depuis quelque temps. On aura d'ailleurs le PCE en fin de semaine qui nous permettra de le voir, et sur laquelle on rajoute encore de l'essence sur le feu, hein, sur cette inflation, en essayant de développer des stratégies pro-business et de développer encore l'emploi. Un des meilleurs exemples de la semaine, c'est le projet Stargate qui a été annoncé par Trump et qui donc de nouveau donne un coup de boost au secteur de l'IA qu'on n'avait pas forcément besoin, mais qui continue à progresser là-dessus. En résumé, et sans rentrer trop dans les détails de tout ce qui a été annoncé, puisque le sujet a été largement abordé sur les blogs, sur les chaînes YouTube, sur les chaînes de télé, le retour de Trump ne sera pas sans conséquence pour la volatilité sur les marchés actions, ni sur les taux, ni sur les cryptos. Mais pour l'instant, globalement, on va dire que la première semaine sous Trump 2.0 s'est relativement bien passée pour Wall Street et pour les autres places de bourse, qui sont plutôt contents ou contentes de voir le trublion républicain revenir aux affaires. Une chose qu'on semble avoir compris rapidement, c'est que Trump a besoin des marchés financiers et qu'il veut les voir monter, ce qui confirmera donc à ses yeux le fait qu'il fait du bon boulot. Il y aura une connexion assez forte entre les deux et ces 4 prochaines années. Trump 2.0 va donc tout faire pour que les bourses montent, et les bourses, visiblement, pour l'instant, en sont bien contentes et l'ont bien compris. Après, bien sûr, il faudra mettre tout ça en pratique, parce que si l'inflation remonte à 6% et que la Fed baisse les taux parce que la Maison-Blanche leur met un flingue sur la tempe, ça ne sera pas simple de faire monter le S&P 500 à 8000 dans les 3 prochaines semaines dans ce genre de conditions. On notera encore une chose, c'est que pour l'instant, l'aspect tarif douanier reste relativement modéré, et même si Trump continue d'appuyer très fort sur la thématique, les marchés hors USA ont bien vécu la chose. Parce que pour l'instant, ils s'attendaient à pire lors de la première semaine. En tous les cas, les performances des gros indices européens parlent pour eux-mêmes, puisqu'on voit clairement sur la performance hebdomadaire que ça s'est relativement bien passé, et on est soulagé que ces tarifs douaniers n'arrivent pas là maintenant tout de suite. D'ailleurs, on peut tout de suite se baser là-dessus en regardant les performances de la semaine. Alors vous voyez que sur la semaine, eh bien, ceux qui finalement sont les plus contents dans l'histoire, c'est le Nikkei qui reprend 3,93% sur la semaine, le Bitcoin qui monte de 3,18%, temps. Et puis après, comme je vous le disais, le CAC 40, le SMI, le DAX, donc les indices européens, qui se montrent quand même relativement contents du fait que ces tarifs douaniers ne vont pas arriver directement à coût de 50% dès le 25 janvier, dès le 30 janvier même. Donc du coup, les gens sont plutôt décontractés, plutôt rassurés sur cette histoire de tarifs douaniers. Et ça, c'est relativement bien ressenti sur les indices européens. Après, derrière, on a bien sûr les indices américains. Le Dow Jones, vous le voyez, plus 2,15% qui avait bien baissé avant l'investiture et qui récupère un peu du terrain perdu. Le S&P 500 en hausse de 1,74%. Le Nasdaq et qui grimpe de 1,65% parce que ça va bien du côté de l'IA, mais ça va un petit peu moins bien du côté des boîtes comme Apple qui ont pas mal de soucis au niveau des ventes de téléphones en Chine, justement. La Chine qui sera un gros sujet, puisqu'effectivement, on voit que les discours protectionnisme de M. Trump pourront et auront certainement des conséquences sur les relations d'import-export avec la Chine. Donc Apple est bien évidemment concerné, déjà parce qu'ils produisent beaucoup là-bas, mais ensuite parce que pour l'instant, les Chinois sont un petit peu moins motivés pour acheter leurs produits. Et puis après, pour le reste, vous voyez la Chine qui hésite toujours à prendre une direction, et puis l'Angleterre et l'Italie qui finalement n'auront pas fait grand-chose. Et on termine avec une performance catastrophique, on va dire, du pétrole qui perd 4,13% parce qu'effectivement, la volonté de Donald Trump, et il l'a dit et répété, c'est de forer. Et forer encore pour faire baisser les prix du baril. Et du côté de la Suisse, vous voyez que sur la semaine, eh bien, on continue toujours dans la foulée du luxe qui cartonne, avec Richemont qui reprend 4,85%, Le Bon Roche qui reprend 3,58%, Lonza qui reprend 6,6%, Sika plus 3%, Partners Group plus 4,7%, UBS Group en hausse de 2,28% parce que, bien sûr, la dérégulation arrive. Novartis qui reprend 1%, c'est un petit peu moins, mais il y a eu des downgrades sur Novartis cette semaine, ce qui fait que ça mettait un peu la pression là-dessus. Mais pour le reste, eh bien, on s'en sort bien et on voit que le retour du SMI, eh bien, est bien aidé par le luxe, par Roche qui retrouve des couleurs, et bien Nestlé, et qui finit quand même la semaine en hausse. Bon, d'accord, c'est 0,65% de hausse sur Nestlé, mais enfin, quand on voit ce qu'ils ont fait ces derniers temps, 0,65%, c'est quand même pas mal. Et on attaque les graphiques de la semaine. Alors vous allez voir que les graphiques de la semaine, c'est surtout beaucoup de séances dans le vert, puisque vous voyez que le SMI a donc cassé définitivement cette tendance haussière. On en parlait la semaine dernière. Cette fois, c'est donc clairement brisé. Vous voyez qu'on a même laissé des gaps derrière. Alors ça, c'est jamais bon, parce qu'on sait que le marché n'aime pas le vide. Donc on pourrait envisager un retour du SMI qui reviendrait comme ça avant de repartir à la hausse. Mais en tous les cas, la clôture de l'indice helvétique qui frise et les 12 300 en clôture en fin de semaine, c'est exceptionnel. On voit que ça se réveille. Quand vous regardez ce qu'on a fait depuis le début de l'année, eh bien, c'est assez spectaculaire sur notre indice local. Le S&P 500, alors là aussi, je vous avais mis ces petites flèches qui montraient cette tendance descendante qu'on n'arrivait pas à casser. Eh bien, vous voyez que le S&P 500 termine quasiment sa semaine au plus haut de tous les temps sur l'indice. Donc, le retour de Trump est une joie totale pour les marchés financiers qui sont très contents de voir ça. Et donc, vous voyez qu'on est reparti pour une nouvelle séance de hausse. On est très loin des moyennes mobiles des 200 jours. On s'éloigne de la moyenne mobile des 50 jours. Et vous voyez que ces tendances moyennes sont clairement à la hausse. Et on est vraiment dans la partie élevée de la performance. Donc, ça va très, très bien. Et c'était une très, très belle semaine. On en parlait tout à l'heure du projet Stargate. Alors là aussi, hein, vous voyez que le Nasdaq a bien aimé. Alors, on sent quand même qu'on arrive sur les plus hauts historiques. C'est un peu plus difficile sur le Nasdaq. Hein, vous voyez qu'on va avoir de la peine à s'établir en dessus des 22 000 sur le Nasdaq. Donc, on voit quand même qu'on a une petite fin de semaine d'hésitation avec des candlesticks qui vont dans les deux sens. Mais là aussi, une très belle performance, un gap. J'aime pas les gaps parce qu'on va devoir les combler à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, très très belle semaine sur la tech américaine. Là aussi, merci Donald Trump. Et puis alors, l'indice qui sera sous les feux de la rampe ces prochains temps, c'est le semi-conducteur index, le SOX. Alors vous voyez, c'est assez impressionnant. Hein. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on voyait souvent le graphique de Novartis qui était casé entre cette espèce de canaux latéraux. Et bien là, on voit un énorme canal latéral sur le SOX. Hein. Depuis août l'année passée, on n'arrive pas à s'établir au-dessus des 5400 et on n'arrive pas à aller plus bas que les 4008. Donc on a ces 600 points de range aussi en ce moment qui font qu'on oscille là-dedans. Et vous voyez que là, on est venu. Je vais attendre un peu que mes couleurs disparaissent. Mais une fois qu'on est venu chercher les plus hauts ici, vous voyez qu'on a de la peine à se maintenir. Logiquement, On peut revenir dans ce range et rechercher les 5000 sur le SOX. Ça dépendra bien sûr des chiffres trimestriels qui vont arriver comme un ouragan sur le marché ces prochains temps. Et ce sera bien sûr très, très important à observer. On aura l'occasion d'en reparler. Le DAX, comme d'habitude, le DAX continue de monter. On a une semaine un peu fin de semaine dans le rouge, mais pour le reste, ça continue de monter. Là aussi, il y a un gap. On est en haut du range, donc attention, attention les prises de profit s'il y avait le moindre vent contraire qui se pointait sur les marchés. Mais pour l'instant, ça continue à aller très très bien pour ce qui est du DAX. Paris, c'est pareil, hein. Il y a une chanson qui disait Paris est magique, et bien là c'est magique, hein, parce que vous voyez d'où on vient sur le CAC 40, hein, on est vraiment reparti très très loin, on a quasiment pris 1000 points en l'espace de quelques temps sur le CAC, ça n'arrête pas de monter, et là on va en plus faire face aux chiffres du luxe. Alors on attend des chiffres exceptionnels après l'histoire de Richemont, mais vous voyez que le CAC s'envole là aussi, et part chercher les 8000 en tous les cas sur le CAC 40. La réponse est-ce possible, la question est-ce possible, et la réponse, ben, on l'aura cette semaine en fonction des premiers chiffres, gros chiffres importants qui arriveront en France avec bien sûr LVMH qui publieront le 28. Et puis on termine avec le drill, baby drill, le pétrole. Vous voyez que le retour a été violentissime avec l'arrivée du président américain, puisque finalement on était quand même quasiment au-dessus des 80 il y a quelques semaines en arrière. Et aujourd'hui on se retrouve en dessous des 75. Donc on a cassé cette moyenne mobile des 200 jours. On est repassé en dessous et vous voyez qu'on va se battre le milieu. Alors, chose positive encore pour l'instant, c'est que le pétrole pour l'instant est en train de nous construire quand même une consolidation, j'ai envie de dire haussière, parce que là on va quand même avoir à terme un croisement des moyennes mobiles qui pourrait nous donner un signal d'achat sur le baril. Mais de l'autre côté, on a bien sûr toute cette problématique qui vient de Donald Trump, qui lui ne veut pas que le baril reparte trop haut, et il l'a dit et expliqué très très fort. Ça prendra quand même un peu de temps pour tout remettre en place et pour que tout fonctionne comme prévu et comme il a envie que ça se produise ces prochains temps. On passe maintenant au niveau des vedettes de la semaine, des vedettes suisses de la semaine, puisque du côté des stars, eh bien, on commence à voir pas mal de publications trimestrielles et ça va s'intensifier de plus en plus lors des prochaines semaines. Aux USA, on a eu Netflix qui a cartonné sur le trimestre, ce qui était clairement le top stock de la semaine. Et en Suisse, on n'a pas encore vu les mégastars qui sont là, mais ça publie dans tous les sens et ça va bientôt arriver. On peut déjà parler de Belimo. Alors bien sûr, ça ne fait pas partie des grosses stars du SMI, mais Belimo, qui est le spécialiste des servomoteurs et clapet d'aération à Zurich. Belimo a bénéficié notamment de la construction de nouveaux centres de calcul ces derniers temps. Un tiers de la croissance de cette entreprise aux États-Unis est désormais attribuable aux centres de données, selon leur directeur financier, qui a expliqué ça lors d'une conférence en ligne. Et donc, dans l'ensemble du groupe, ce chiffre est d'environ 12%. Et la tendance est à la hausse. Et avec l'arrivée du programme Stargate, évidemment que ça a donné aussi un coup de main de ce côté-là. Vous voyez clairement que ça a bien aidé la thématique. Stargate, l'arrivée et les annonces de Trump ont quand même beaucoup aidé le titre, qui depuis deux semaines déjà s'envole à une vitesse absolument ahurissante. Quasiment 120 $ pardon, 120 francs suisses de hausse sur Belimo ces derniers jours. Donc c'est juste impressionnant. On va pas faire d'analyse technique sur un chart comme ça parce que ça ressemble juste plus à rien. Voilà, pour l'instant, c'est apparemment sur ce cas-là, on peut enfin dire que les arbres montent au ciel. Du côté de chez Meyer Burger, le spécialiste du photovoltaïque, hein, qui est en grande difficulté, on le sait. Alors, ils ont annoncé pendant le week-end qu'ils se sont procurés des moyens financiers supplémentaires. Le financement relais a été conclu pour stabiliser l'entreprise et a été prolongé et même augmenté. Donc par ailleurs, l'entreprise a lancé un processus de rachat. Donc c'était plutôt des bonnes nouvelles du côté de Meyer Burger, mais on sait quand même que ça reste quand même très très compliqué. Vous voyez que quand on regarde le graphique de Meyer Burger, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment encore sorti de l'auberge. Je ne sais même pas si on voit quelque chose sur les annonces de la semaine. Vous voyez que ça n'a pas non plus été pris super bien. C'est des bonnes nouvelles, mais on voit qu'on reste quand même globalement au fond du trou. Parlons un peu de Alzo, le fournisseur de matériel et logiciels informatiques a amélioré son chiffre d'affaires, mais ils ont laissé quand même pas mal de plumes au niveau de la rentabilité. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les actionnaires vont bénéficier d'une hausse du dividende. Et comme vous le voyez sur le graphique, eh bien, la hausse du dividende, c'est tout ce que les actionnaires ont retenu. Donc, relativement belle semaine chez Alzo également, qui finit quand même au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours et au-dessus même des, enfin, carrément à 250 francs suisses, titre qui se traitait quand même en dessous des 220 au tout début de l'année 2025. Gascom, eh bien, ils ont annoncé qu'ils souffraient, d'un repli de ses revenus et de ses commandes. Donc l'équipementier Zougua en télécom pour le milieu hospitalier a aussi subi un tassement de sa marge opérationnelle, ce qu'on appelle l'EBITDA, à environ 7,5% contre 10,5% il y a un an. Et le bénéfice net est également attendu en forte baisse, une baisse de 3 et 4 millions. Et là aussi, ça se passe de commentaires. Vous voyez que la sanction a été extrêmement violente. Alors déjà qu'on est dans une tendance baissière depuis un bon moment, et ben là, vous voyez que le titre s'est fait littéralement massacrer puisqu'on est passé de 4,18 quasiment à 3,25, donc quasiment 25% de baisse. Et ça n'a pas montré le moindre signe de rebond en fin de semaine chez Ascom. Chez Doc Morris, la pharmacie en ligne, eh ben, eux, ils ont montré qu'ils étaient parvenus à faire progresser leurs revenus externes l'an passé. Mais par contre, eh bien, ils souffrent beaucoup de la comparaison avec la croissance des affaires de son concurrent hollandais, qui s'appelle Redcare. Les revenus externes de Doc Morris ont donc cru de 4,6% ou de 6,7% en monnaie locale à 1,08 milliards de francs suisses. Toutes les divisions ont contribué avec la croissance des ventes d'après leur dernière publication, mais pas sûr que ça suffise. Vous voyez que sur le graphique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, pour l'instant, on a l'air de vouloir faire un bottom, mais ça reste quand même très très compliqué. Il faudra confirmer un petit peu plus que ce rebond depuis quelques semaines pour pouvoir espérer avoir un recovery quelconque chez Doc Morris. Donc pour l'instant, on surveille, on attend, mais on regarde surtout les souffrances qu'ils subissent du côté de la concurrence. Du côté de chez Comax, le fabricant de machines de câblage a dévoilé des premiers résultats en baisse sur un an pour son exercice de 2024, malgré qu'ils ont quand même trouvé une amélioration de ces chiffres au second semestre. La direction souligne la performance en dépit des conditions de marché qui sont extrêmement difficiles en ce moment selon eux. Le marché de son côté a plutôt bien pris les choses et a surtout retenu la phrase amélioration des chiffres, puisque juste sur l'annonce, le titre prenait quand même près de 20%. Voilà, donc là aussi, c'est un retournement de situation assez spectaculaire. On passe d'une moyenne mobile des 50 jours à une autre moyenne mobile, mais celle des 200 jours. Hein, donc, explosion assez spectaculaire sur les déclarations plutôt encourageantes de la part du management. Bon, après, il faudra juste faire attention sur Comax et qu'on reste quand même plutôt établi dans une tendance baissière. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on a cassé, qu'on démarre une nouvelle tendance? Ce sera à surveiller. Hein. Donc, surveillez bien cette zone maintenant entre 140 et 120, 110 même, on va dire. Est-ce qu'on est capable de démarrer un nouveau cycle? Affaire à suivre sur Comax. Mais en tout cas, pour une fois, on a trouvé qu'il y avait quand même un petit peu d'optimisme au milieu d'une certaine morosité ambiante. Pas des kilos de nouvelles chez Roche cette semaine, mais ils ont par contre reçu l'autorisation de l'agence américaine des médicaments, la FDA, pour la mise sur le marché de ces tests destinés à diagnostiquer les maladies sexuellement transmissibles. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, au moins cette semaine, Roche, à l'image du SMI, a vécu une très belle semaine. Comme vous le voyez sur le graphique, tout va bien chez Roche. Le seul problème, c'est les gaps qu'on laisse un peu dans tous les sens. Donc ça me dérange un tout petit peu. Mais vous voyez que gentiment, toutes les tendances baissières qu'on essaie d'établir sur Roche, celle qu'on avait là à l'époque, elle a été cassée. Celle qu'on a maintenant, qu'on a essayé de développer maintenant, elle est en train de casser également. On a les moyennes mobiles qui confirment. Pour l'instant, on est toujours dans un signal d'achat qui date de là. Et là, on voit qu'on évite le signal de vente. Les choses ont l'air d'aller un petit peu dans le meilleur des mondes. Enfin, sur Roche, ça se réveille, ça fait plaisir. Et on a l'impression que le titre est en train de repartir gentiment. Alors, j'aime pas les gaps qu'on laisse ici. J'aime pas non plus ceux qu'on a laissés là. Hein. Qui sait ? Allez savoir, peut-être qu'à un moment donné, on va revoir, peut-être dans une époque pas si lointaine que ça, le bon Roche retourner au-dessus des 300 francs suisses. Le chocolatier de cacao, Barry Calbo. Le chocolatier et transformateur de cacao Barry Calbo a donc annoncé, et vous l'avez vu mercredi, un volume des ventes plus faible que prévu pour son premier trimestre. La raison, eh bien, des négociations sur les prix entre clients et détaillants et des retards sur les commandes, alors que les prix du cacao ont atteint en parallèle des niveaux records. Ça, on l'a vu et revu. Le groupe qui est basé en Suisse et qui fournit du chocolat, entre autres, par exemple, pour les crèmes glacées Magnum et les barres KitKat, eh bien, ils ont déclaré que le volume de ces ventes a chuté de 2,7% à 565 000 tonnes au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 novembre, alors que les analystes prévoyaient 568 000 tonnes dans un consensus qui avait été fourni par l'entreprise. Donc la société a souffert énormément de pas moins de 6 dégradations d'engrais d'objectifs au cours de la semaine par Kepler, par Barclays, par Fontobel, par JP Morgan, par Citigroup et par Bader LVA. Donc tout le monde tire sur l'ambulance, j'ai envie de dire. Donc sale semaine pour Barry Callebaut. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. À ce niveau-là, c'est plus un graphique, c'est un couteau qui tombe. Vous voyez que le titre a perdu 600 francs depuis les 1600 francs où nous étions à l'automne aujourd'hui. Donc c'est une catastrophe en termes de performance. Alors j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui disait qui posait la question en dessous d'une des vidéos. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, ce sera intéressant à venir racheter? Franchement, pour l'instant, c'est vraiment, on ne rattrape pas un couteau qui tombe, et on attend que ça se stabilise. Vous voyez en parallèle le cours du cacao. Alors si Barry Callebaut nous dit que c'est difficile parce que les cours sont élevés, eh bien forcément, quand vous voyez ce qui est en train de se construire ici, ça veut dire qu'on va de nouveau avoir une nouvelle vague pour aller chercher bien plus haut. Donc je me méfie quand même à ce niveau-là. Pour que ça devienne intéressant de regarder Barry Callebaut, il faudrait vraiment que le cacao revienne en direction des 9000 et nous laisse supposer qu'on peut se consolider quelque part plus bas que les niveaux stratosphériques où on se trouve aujourd'hui. Givaudan a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 7,2 à 7,4 milliards de francs suisses, alors que le bénéfice opérationnel brut s'est affiché à 1,7 milliard, en hausse de 19,8%. Ces résultats répondent aux attentes du consensus. Le marché n'a pas trop aimé l'ensemble de la publication et le titre était en baisse de 3% sur ces annonces. Et puis en vrac, on notera que le grossiste en médicaments et exploitant de chaînes de pharmacie Galenica a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires annuel meilleur qu'attendu. Ils ont souligné que la saison grippale, qui est clémente en fin d'année, enfin relativement clémente selon les régions, a freiné sa croissance pour l'instant. Et la direction a confirmé des objectifs annuels comme c'était prévu. Les actionnaires se verront donc proposer un dividende stable au moins. Le spécialiste de la connectique électrique en optique, Oberon Sooner, a bénéficié l'année dernière d'une demande et d'une progression du chiffre d'affaires en hausse. Les ventes dépassaient même les prévisions des analystes et le groupe a confirmé sa prévision de marge opérationnelle de 9%, enfin entre 9 et 10,5% pour l'année entière en 2024. Et puis BB Biotech a retrouvé les chiffres noirs en 2024. Ils ont dégagé un bénéfice net de 76 millions de francs suisses, mettant un terme à 3 années déficitaires consécutive pour le fonds en biotechnologie. Et du côté du lait, EMI a augmenté son chiffre d'affaires à 4,35 milliards de francs suisses en 2024, qui s'est dépassé clairement les attentes des analystes. Le titre prenait 5% sur l'annonce. Et puis, le fabricant de machines Micron est parvenu, à ne pas confondre avec l'américain Micron, est parvenu à maintenir ses revenus à niveau l'an dernier à 374,1 millions de francs suisses, alors que les commandes ont fléchi à 388,6 millions. Et puis le groupe autrichien Pirard Mobility, KTM, les motos pour les motards, a annoncé jeudi soir avoir reçu, avec l'appui de la banque américaine Citigroup, plusieurs offres d'investisseurs lui permettant de financer au moins 30% des plans de restructuration destinés au sauvetage de sa marque phare de moto et de ses filiales déclarées insolvables fin novembre. Et puis, dans la thématique faillite et consorts, et Swiss Steel a annoncé vouloir se retirer de la bourse suisse puisque la direction avance la possibilité d'un négoce hors bourse. Le titre s'est littéralement démonté. Mais au point où nous en étions, ça ne change pas grand-chose sur Swiss Steel. En conclusion de tout ça, la semaine aura été placée sous le signe de Trump 2.0 et la semaine qui arrive sera placée sous le signe d'une avalanche de chiffres trimestriels tout aussi importants les uns que les autres, plus les nouvelles déclarations à venir de la part du président américain, puisqu'on est clair et net, il va y en avoir encore et encore. Côté chiffres macro, nous allons revenir à la réalité avec les chiffres de l'IFO en Allemagne, le PMI chinois, le Nouvel An chinois également, le premier meeting de la fête de l'année en 2025 qui aura lieu mardi et mercredi, mais aussi les PIB des grands pays du G20, la France, l'Europe, l'Allemagne, les États-Unis, et puis les CPI en Europe, la confiance du consommateur américain, ainsi que bien sûr en fin de semaine, le fameux PCE qui sortira vendredi juste après le meeting de la Fed de mercredi. D'ailleurs, la Fed ne devrait rien faire encore cette semaine, même si Trump a déjà commencé à leur mettre la pression. Et puis du côté des chiffres trimestriels, alors vous voyez qu'avec le tableau qui s'affiche à l'instant, la semaine va être chaud patate, comme on dit, hein. On attaque lundi avec Sophie, AT&T, Bank of Marine, Bank of Hawaii, Nucor et puis encore Crane ou Sanmina qui publieront lundi. Et puis alors après, ça va commencer à monter en puissance puisque mardi, c'est Boeing, c'est General Motors, c'est Lockheed Martin, c'est Royal Caribbean qui vont publier. Et derrière, on aura droit à Starbucks, SAP, Logitech, PCA, Nextracker, Chubb, F5, Stryker. Et puis mercredi, alors attention, les semi-conducteurs rentrent en course puisque ASML publiera mercredi matin en Hollande. Ensuite, on aura également ADP, on aura Teva, on aura General Dynamics, le Nasdaq lui-même. Et puis mercredi soir, alors ça va être champagne et cotillon avec les chiffres de Tesla, de Meta, de Microsoft, d'IBM, de Lam Research. Autant vous dire qu'on aura plein de choses à se raconter cette semaine puisqu'on continuera encore avec UPS, avec Mastercard, avec Dow Chemical, avec Blackstone, avec Nokia, et puis il y a Caterpillar, et puis Apple, Intel, Visa, Kalatencor, Atlassian encore, enfin vous voyez qu'il y a du monde, on terminera avec les pétrolières. Autant vous dire que ça va être champagne toute la semaine. Il y aura plein de trucs à raconter. Je me réjouis déjà de vous aligner tout ça avec les Morning Bull au fur et à mesure de la semaine. Voilà ce que l'on pouvait raconter en ce dimanche. Alors excusez-moi du décalage, mais comme vous le saviez, j'ai voyagé un petit peu, donc je dois rattraper le retard. Donc moi, je vous souhaite d'abord une excellente fin de dimanche, un très bon début de semaine. Je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull pour entamer la semaine. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites ce que vous avez envie, de toute façon c'est dimanche, on fait ce qu'on a envie le dimanche et on se retrouve bien sûr demain matin comme d'habitude. Merci à tous d'être là aussi nombreux et aussi régulièrement. Très très bonne fin de journée à tous. Bye bye.